RFI, grand reportage.
C'est le scénario redouté par les services de sécurité français que les banlieues s'embrasent à nouveau alors que le pays est toujours en situation d'état d'urgence. Depuis le viol présumé d'un jeune homme à Aulnay-sous-Bois lors de sa brutale interpellation par les forces de l'ordre au début du mois, les autorités locales et nationales jusqu'au plus haut niveau de l'État ont tout fait pour tenter d'éviter que ne se rallume la mèche des émeutes de 2005. L'affaire Théo est aujourd'hui entre les mains de la justice. Outre la question déjà ancienne du divorce entre police et jeunes des cités, elle interroge sur les moyens et la formation des fonctionnaires dans les quartiers populaires et sur un supposé racisme au sein de certains commissariats. Affaire Théo, 22 v'là la cité, c'est un grand reportage du service France de RFI.
Ils arrivent, ils ont peur des jeunes, voilà, peut-être arriver, ils ont peur de la police, donc ça crée un climat de tension.
En Afrique, les gens respectent la police. Mais ici, quand on parle de police, tout le monde fuit.
Si j'aurais un grand frère de 22 ans qui se mange une matraque dans l'anus, je pense que la vérité, il n'y aura jamais de confiance entre la police et les jeunes.
C'est un volcan un petit peu. Ouais, on est sur une... Si on est assis sur un gros volcan, ça peut péter du jour au lendemain.
On se parle mal aussi des deux côtés.
Non, on se parle pas ou on se parle mal.
On ne se parle plus ou on se parle mal entre jeunes des quartiers populaires et policiers. La chose n'est pas nouvelle et l'affaire du jeune Théo, gravement blessé à l'anus par la matraque d'un représentant des forces de l'ordre, n'a fait que relancer le débat sur les violences policières. Flics, violeurs, assassins, scandent les manifestants en ce mois de février. Pendant 3 semaines, les journalistes de RFI ont été à la rencontre des habitants des cités pour tenter de comprendre ce lien rompu avec la police et quelles solutions sont proposées pour tenter d'y remédier. Jour de marché à la cité des 3000 d'Aulnay-sous-Bois. Les épices et les tissus colorés font presque oublier la tension de ces derniers jours. Ici, ce sont plutôt les mamans que l'on croise dans les allées. Marie Ngoma et son mari Joël.
En fait, j'attends que justice soit rendue par rapport à ce jeune homme. Et j'espère que ce qui s'est passé, moi j'habite de l'autre côté au 5e, je me suis mis là-bas, j'ai vu le feu, j'ai commencé à trembler sur moi.
On n'a pas dormi pendant 2 jours parce que voilà, les jeunes se sont manifestés parce que ça ne faisait pas bien de se comporter comme ça en tant que la police.
Les voitures brûlées, les jeunes ont fait sortir des poubelles, ils ont lancé, je ne sais pas comment ça s'appelle, les fumigènes ou je ne sais pas quoi. Et la police aussi était là avec des boucliers pour se protéger. Donc franchement, trop c'est trop, il faut que ça s'arrête.
Il faut que ça s'arrête, l'appel au calme de Théo et de sa famille ont contribué à faire baisser la tension dans le quartier de la Rose des 80. Chez les plus jeunes, la rancœur contre les forces de l'ordre a toutefois du mal à retomber. Comme d'autres, Karim et Céline affirment avoir vécu ces contrôles qui dégénèrent.
Je sors dehors en bâtiment, il y a un policier qui est venu, il m'a gazé. Mais je crois que ça a le gros port, toi tu cours, sale arabe, comme ça voilà. Ils ont attrapé des potes à moi, ils étaient avec moi, ils n'avaient rien fait. S'ils couraient pas, ils nous tabassaient comme des chiens. On avait des cocards partout. Nous sommes là-bas, c'est possible, ils nous défendent. Mais vas-y, c'est des bâtards.
Mais après, ça dépend quel policier. Il y en a qui sont mauvais, il y en a plus qui sont racistes maintenant. Ils insultent les noirs, les arabes. Mais après, ça dépend, on n'est pas tous pareils, quoi. Ouais, il y a des policiers qui sont quand même sympas.
Les relations police-population en France, avec les quartiers populaires en particulier, sont des relations difficiles.
Sébastien Rocher, directeur de recherche au CNRS de Sciences Po Grenoble.
Et dès le milieu des années 70, les pouvoirs publics ont commencé à s'en rendre compte. Et c'est ce qui a motivé les efforts qui ont débouché sur la police de proximité entre 97 et 2000. Mais on n'avait pas mesuré de façon très précise la taille du divorce entre police et quartiers défavorisés, en particulier les jeunes garçons. Ce qu'on a fait, nous, à partir de 2012, de façon précise, et là, on a vu que la majorité des jeunes dans les quartiers populaires avaient une opinion défavorable de la police, que très souvent, ils l'apercevaient comme violente et majoritairement comme discriminatoire.
Choc, colère, au lendemain de l'interpellation de Théo, les maires de la cité des 3000 manifestent pour demander justice et dire leur marre de tout. Marre des policiers cow-boys, marre des patrouilles rodéo dans la cité, marre de la réserve d'Indiens et des ghettos de pauvres en France. Dans ce western moderne, la peur a changé de camp. Aïssa Sago, directrice de l'association Femmes Relais à Aulnay-sous-Bois.
Il n'y a plus du tout de dialogue ni entre les jeunes ni entre la population elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens des quartiers ont peur de la police. Donc du coup, il y a une barrière qui s'est mise. Les familles ont très très peur de la police. Dès qu'on voit la police arriver, on prend nos téléphones pour appeler nos enfants. Donc c'est qu'il y a une vraie crainte, quoi. Il y a eu beaucoup d'interpellations musclées, beaucoup de contrôles d'identité qui tournent très très mal. Donc souvent, on retrouve les jeunes au commissariat avec le visage déformé, en sang, et on a juste la version de la police. Et souvent, les familles mettent en doute la parole de leurs enfants, puisqu'on se dit si la police est intervenue, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, la réalité est là, quoi. On ne dit pas que tous les jeunes sont des anges et qu'ils se laissent faire, mais j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont été victimes en fait, des contrôles d'identité.
Des contrôles d'identité qui tournent à l'affrontement, une méconnaissance des quartiers et de leur population par des jeunes fonctionnaires inexpérimentés. Ce constat est aussi celui de certains policiers. Alexandre Langlois a accepté de parler à notre micro. À 34 ans, il est le secrétaire général du syndicat CGT Police.
On paye l'échec du service public en général. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'école, service public d'éducation nationale, il n'y a plus les services sociaux, il n'y a plus rien. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus que la police, et encore, qui doit tout gérer, mais en plus mal. Parce qu'on envoie les plus jeunes fonctionnaires, les moins encadrés avec le moins d'expérience, face à des jeunes de plus en plus violents et de plus en plus désespérés. Moi, j'aime bien donner un exemple très concret. En 98, j'ai un de mes très bons potes, c'était son troisième jour dans la police. Il arrivait avec un sous-brigadier, un ancien proche de la retraite. Donc il était affecté à Persan. Ils entendent sur les ondes au bout de 3 jours donc, d'affectation, tirs dans la cité, tirs de flashball, pavés, etc. Le sous-brigadier est arrivé avec voiture sérigraphiée, gyrophare, au milieu des deux. Là, mon pote s'est dit, on est mort, on va se faire tuer, on ne sait pas par qui, mais on va se faire tuer. Le sous-brigadier ouvre la portière. Dans la cité, on entend CGG, arrêtez de tirer. Il commence à expliquer qu'est-ce qui s'est passé, un contrôle d'identité où le ton était monté. Bon voilà, il connaissait tout le monde dans la cité, ça faisait 30 ans qu'il habitait là. Il avait le temps d'aller voir les parents, il disait il y a un jeune qui déconne, je tape à la porte des parents. Donc en fait, en connaissant les quartiers, on peut faire des choses. Mais après, il faut que le reste du service public fonctionne.
C'est malheureux que Dieu s'est fait vraiment tabasser ici. Il habite dans les appartements à côté.
24 rue Edgar Degas à Aulnay-sous-Bois, nous voilà chez Jean-Jacques, agent de sécurité au cœur de la cité des 3000.
J'enlève mes chaussures ?
Ouais, non, vous n'enlevez pas vos chaussures, vous êtes chez vous. Ma femme, elle est en train de dormir parce que le bébé, il est tout petit.
Bon, on va pas parler trop fort alors s'il dort à côté.
Ouais.
Vous-même, Jean-Jacques, vous n'avez pas beaucoup dormi parce que vous travaillez de nuit,
ouais, c'est ça ? Moi, je travaille de nuit, voilà. J'ai quitté ici à 14h et puis j'ai rentré ici à 8h. Bon. Cette chienne qui aboie là, elle s'appelle Angèle. L'autre s'appelle Whisky et puis celui qui est dedans, il s'appelle Ben Jonah.
Voilà. Nous avons rencontré Jean-Jacques alors qu'il venait de déposer les statuts de sa nouvelle entreprise de gardiennage. D'origine ivoirienne, voilà 17 ans que Jean-Jacques est installé à la Rose des Vents.
La police, c'est pas pour se faire tabasser normalement. La police, c'est pour défendre les quartiers normalement. Mais aujourd'hui, cette police, elle n'est pas populaire. Elle n'est pas bien vue dans nos quartiers parce qu'elle agit mal. Ceux qui viennent ici, ils ne connaissent pas le quartier. C'est des gens qui viennent de la province. Il y a des gens qui prennent les services. Ils ne connaissent pas les jeunes du quartier. Ils ne savent pas les parler. Ils ne savent pas les aborder. Mais moi, aujourd'hui, quand je sors mon chien, on m'appelle monsieur de la sécurité. Tous me connaissent. Même quand je leur dis de rentrer chez eux, les jeunes, ils rentrent chez eux. Là, aujourd'hui, je demande à la police de nous aider pour que moi, je les aide.
Et Jean-Jacques a sa petite idée. Faut-il plus de mixité dans la police ? Lui, en tout cas, se voit bien accompagner les policiers lors des patrouilles dans la cité.
La police ne connaît pas la zone dans laquelle elle opère. Et c'est très dangereux. Les policiers, quand ils font passer leurs patrouilles ici sur la rue Edgar Degas, quand je vois ici la police passer, je vois qu'elle se fait caillasser. Nous pouvons parler à la place de la police, même patrouiller avec la police, pour dire que la police, elle n'est pas raciste. Pour dire que cette police-là aussi, elle travaille aussi avec des fils d'Aulnay. Là, aujourd'hui, si j'ai créé ma société, je pense que le feu va s'éteindre sur 3000. En particulier dans le quartier de M. Théo.
Reculez, bordel. Reculez.
Attention avec les caméras.
Doucement.
Voilà.
Reculez.
Le plus dangereux, c'est les caméras.
On est un petit peu disciplinés. Reculez, s'il vous plaît.
Le plus dangereux, ce sont les caméras. C'est pourtant bien des caméras dont vient parler Bruno Leroux, bousculé par les journalistes à son arrivée à Sarcelles. Le ministre de l'Intérieur est venu vanter les caméras piétons, un dispositif fixé sur l'uniforme de manière à filmer les interventions.
Bonjour, capitaine, venez.
Capitaine, voilà, qui est en charge.
Bonjour. Alors, vous avez la caméra.
Oui, tout à fait.
Bon, à partir du moment que le fonctionnaire de police a une caméra piéton, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de réserves de la part de nos interlocuteurs et des gens qu'on contrôle.
Disons que ça émet une barrière quand on effectue les contrôles, ou les jeunes, les individus qu'on contrôle, effectivement, on leur annonce qu'ils vont être filmés. Mmh. Ça apaise.
Ça apaise la relation.
Alexandre Langlois de la CGT Police.
La caméra, c'est une très bonne idée, c'est ce qu'on demande. Même les policiers sont tellement demandeurs qu'ils s'équipent des fois de GoPro eux-mêmes sur les caméras. Donc c'est pareil, on est dans de la com, parce qu'il y a un an, on nous avait déjà promis des caméras à M. Cazeneuve. Elles sont où ? On nous a dit, on a fait des essais, bon voilà, pirouette, cacahuète. Et là, on nous a dit, on va vous en mettre 2600, donc 2000 pour la police, 600 pour la gendarmerie. Je rappelle, on a 145 000 fonctionnaires de police, donc je veux dire une goutte d'eau. Et troisième point, est-ce qu'on mettra l'argent ? La caméra a été rajoutée sur le taser, ils ont pris la plus mauvaise qualité, donc les images sont en général pas exploitables. Et après, en fait, quand le taser n'a plus sa caméra, parce qu'elle tombe en panne une fois sur deux, le taser doit aller dans un cyclage à la poubelle, enfin, en attendant qu'on remette la caméra. Donc, au lieu de jeter de l'argent par les fenêtres, soit on met la qualité, soit, je veux dire, on arrête de faire de la com.
Ah, vous êtes filmés !
Des interventions policières filmées pour apaiser les tensions. Côté jeunes aussi, les caméras sont omniprésentes. Que ce soit un voisin depuis son balcon ou les jeunes eux-mêmes avec leur smartphone, les vidéos d'opérations de police pullulent sur les réseaux sociaux. Et le jeune Théo lui-même raconte avoir cherché les caméras de surveillance lors de son interpellation.
Là, des policiers, ils viennent, ils me mettent un coup. Et là, je savais très bien dans le coin où on était, il n'y a pas de caméra. J'ai dit, alors là, il faut que je me débatte le mieux que je peux pour que j'aille devant les caméras. Et dès que j'arrive devant les caméras, j'ai pas cherché à fuir. J'ai dit aux policiers, vous avez déchiré mon sac.
Des caméras témoins, encore faut-il que les policiers acceptent d'être filmés. Wissam fait partie de ce que les médias appellent les grands frères, terme qu'ils récusent et jugent même ridicule. Disons donc un père de famille impliqué dans la vie de la cité.
Oh non, cette vidéo n'est plus disponible. Le compte a été clôturé. Sur Facebook, il y avait la vidéo, elle n'y est plus. C'était une situation assez classique de la tension qui existe entre les forces de l'ordre et les habitants des quartiers populaires.
Dès que le jeune a voulu filmer la police, là il y a eu tout de
suite... Il y a eu une réaction agressive de la police, donc c'est tutoiement immédiat, c'est... Donc bien sûr, le jeune a rétorqué. Mes amis avaient déjà pris en charge les jeunes et commencé à discuter avec eux pour leur demander de se calmer, éviter l'altercation. Mais c'était pas évident. On parle d'une caméra piéton sur un uniforme. Sauf qu'en face, voilà, c'était une réaction de censure.
En face, ils n'ont pas le droit de filmer.
Les policiers ne leur donnent pas le droit de filmer. Je comprends pas ce refus d'être filmé.
Eh bien, on est venu, on arrivait comme ça, on a vu une voiture brûler, il y avait plein de flammes. Après, nos amis, ils ont appelé les pompiers.
De la fumée noire dans le ciel de la cité des 3000. C'est une ambulance à l'arrêt qui a été incendiée. Geste de jeune en colère, arnaque à l'assurance, difficile de le savoir alors que la tension reste vive. Pour rassurer, ce jour-là, le président François Hollande est en visite à la mission locale pour l'emploi des jeunes à Aubervilliers.
J'ai le temps pour nettoyer là, maintenant.
Ce vieux maçon qui s'impatiente s'appelle Nounesh. Il a été appelé à la dernière minute pour refaire le carrelage de l'institution et doit attendre que les huiles s'en aillent pour nettoyer. Mais chut.
On a changé le carreau là.
À quelle heure ?
6 heures du matin. J'ai été envoyé pour faire ça à 6 heures du matin. Ils étaient vraiment cassés.
Des plaques de carrelage refaites avant le passage du président. Parmi les curieux, Sofiane a l'uniforme de ses 19 ans, survêtement, basket, et un nouvel emploi trouvé par la mission locale.
Ils m'ont dit qu'il y a François Hollande qui va passer. On ne les voit jamais, ça fait plaisir un peu de les voir, parce qu'on ne les voit qu'à la télé, ils parlent, et ça va, ça nous fait plaisir de les voir en vrai. On va voir ce qu'ils vont faire. Faire justice, condamner ces policiers qui ont fait ça pour le jeune Lenin Soubois, Théo, c'est ça, être réglo. C'est pas en venant ici, parler, nanana, la mission locale s'est passée en plus de bon matin. Puis ça a changé, hein. C'était sale tout à l'heure, vous avez pas remarqué ?
C'était sale,
très très sale, poubelle remplie, là les... Un petit demi-heure, ça a changé. Hein.
Police ! Assassin ! Justice pour Théo !
À l'arrivée du chef de l'État, le retour des slogans lancés par une quinzaine de mères de famille depuis une terrasse. Sarah, 19 ans, rêve de passer son permis et de devenir vendeuse dans le prêt-à-porter. C'est elle qui a tenu à parler de l'affaire Théo au président lors du tour de table avec les jeunes.
Je pense que la vérité, il n'y aura jamais de confiance entre la police et les jeunes. François Hollande a dit qu'il est parti se déplacer pour dire qu'il ne faut pas avoir des tensions entre la police et les jeunes. Mais les jeunes, ils n'ont pas respecté François Hollande. Ils sont partis quand même brûler les poubelles. Donc voilà, qu'ils arrêtent les jeunes et qu'ils les frappent dessus, c'est pas possible. Si j'aurais un grand frère de 22 ans qui se mange une matraque dans l'anus, moi aussi ça m'aurait choqué sur le coup.
Mais il ne fonctionne pas l'interphone, là, regardez. Normalement, je suis obligée d'utiliser ma clé, la mettre ici, et là, la porte s'ouvre. Tout ce que vous voyez là, c'est des puces. Et c'est comme ça aussi chez les locataires. Vous voyez ? Il y a de l'arrière.
Retour à Aulnay-sous-Bois. Comment expliquer les rapports dégradés entre jeunes et policiers ? Comment expliquer ces grappes d'ados sous les porches d'immeubles ? Il y a aussi parfois un problème de logement, nous dit Samia, de l'Amicale des locataires de la Cité de l'Europe.
Bah, on est dans le cœur même de la cité, après une réhabilitation ratée qui a eu lieu en 2015. On vit avec les rats, les punaises de lit, les cafards. On a eu des coupures d'eau pendant 3 semaines. On a beau se plaindre, on n'a rien. Regardez même, on voit même l'électricité apparente. Vous vous rendez compte que j'habite Aulnay ? Moi, je suis une ancienne des 3000, hein. J'ai 44 ans. Hein. Je n'ai jamais rien vu de correct du début à la fin chez Emmaüs. Quand vous voyez que les jeunes, ils veulent pas rester chez eux parce que c'est dégradé. Vous croyez qu'ils ont envie de rester chez eux quand ils voient l'état de leur appartement ? Non, bah c'est dehors. Après, ça fait quoi ? Bah, ça squatte les halls sans pour autant les dégrader. Il faut arrêter.
Pas de repos. C'est dynamique.
Mais tout ne va pas si mal. Heureusement, à la Rose des Quatre Vents, nous voici à la salle des sports de la régie de quartier de la Cité de l'Europe. Ici, on trouve un gratin dauphinois, des pommes de terre à loco ou un couscous pour 4 euros. On peut pratiquer le sambo, un art martial venu de Russie, ou d'autres activités sportives. Mais côté jeunes et policiers, rien de nouveau sous les gyrophares. Amara, l'un des animateurs de la régie de quartier.
C'est un problème qui est récurrent. Ouais, un peu plus tard qu'hier, j'ai eu des locaux qui ont eu une bagarre avec la police encore, juste à côté. Et des relations, c'est encore plus tendu qu'avant.
Avec la police ?
Ouais, il y a encore plus de trafic, etc., etc. À notre échelle, à nous, rien n'a changé. Et voilà, eux, ils arrivent, ils ont peur des jeunes. Les jeunes, voilà, peut-être arriver, ils ont peur de la police. Donc, ça crée un climat de tension. Et malheureusement, ça se finit en bagarre, voilà.
Alors qu'au départ, c'est pas grand-chose, finalement. C'est rien.
Oui, c'est des querelles. Tu m'insultes, tu t'insultes. Franchement, ça part de rien. Ou ça part d'un simple contrôle. Tu te retrouves à tuer ta vie.
Un simple contrôle peut tuer ta vie. C'est cela aussi que racontent ces interpellations qui vous marquent au fer rouge de la cité. Sébastien Rocher, auteur de La police en démocratie. Aux éditions Grasset.
Ce sont les policiers qui sont à l'origine des contrôles. Donc si on cible des personnes parce qu'ils ne sont pas de la bonne couleur de peau, il est assez logique que les jeunes d'origine maghrébine et africaine aient une opinion très négative de la police. Donc déjà, la police provoque une colère et une animosité par ce ciblage ethnique. Et ensuite, une fois qu'on est dans le contact, ce sont plus souvent les jeunes qui manifestent leur agressivité par rapport à la police. Donc voilà, on ne peut pas juste traiter la question de l'agressivité sans s'intéresser au problème de la discrimination et de l'égalité devant la police.
Bonjour à tous.
À Paris aussi, la rue demande justice pour Théo. Parmi les manifestants, une jeune grand-mère et son petit-fils, Khedija Koulibaly.
On ne peut plus accepter que nos enfants soient harcelés par la police, c'est-à-dire des contrôles, parce que leur seul crime, c'est d'être noir. Dans un pays qui se dit un pays des droits de l'homme. Être des Français de seconde zone, c'est plus possible. Voilà, le destin de mon petit-fils, qui a 9 ans. Voilà, Khedija Halimi, 9 ans. Justice pour Théo, justice pour tous.
La manifestation répond à l'appel des associations de défense des droits humains et notamment du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Son président, Louis-Georges Tain.
Lorsque les Français regardent ce qui se passe aux États-Unis, ils disent « les policiers tapent sur des noirs, c'est du racisme ». Quand la même chose advient en France, on dit « ah, il y a peut-être un dérapage ». Non, les choses ont un nom. Un viol, c'est un viol. Le racisme, c'est du racisme. Donc, il faut dire les choses, ce ne sont pas tous les policiers, bien entendu, mais il y a aujourd'hui des dérives inacceptables.
Vous dénoncez aussi les insultes à caractère raciste.
Nous dénonçons aussi ces insultes. Nous avons vu récemment à la télé un représentant syndical qui dit que Bamboula est une insulte encore acceptable. Non, c'est absolument inacceptable.
Cette jeune fille qui disait on se fait contrôler, on se fait traiter de Bamboula, on se fait cracher dessus. Il y a aussi cette version-là qui fait qu'on en arrive à des extrêmes comme ça.
Mais la version, j'ai la même. J'ai la même. Et je veux rester poli, mais j'ai la même. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable.
Non.
De l'autre côté, bah, enculé de flic, c'est pas convenable non plus.
Dans les deux sens, ça n'est pas convenable.
Voilà, mais, voilà, mais d'accord, mais c'est la conversation qu'il y a entre les deux. Ouais. C'est ça le problème.
Ces propos d'un représentant de syndicat de police sur un plateau de télévision soulignent à quel point les dérapages verbaux sont courants entre jeunes et policiers. La seule façon d'y échapper, c'est pour le moment de prendre l'avion, nous dit Amara du Café Club de la Cité de l'Europe à Aulnay-sous-Bois, en fond d'écran sur son ordinateur. Une photo du jeune homme avec un tigre.
Des photos de vacances. En Thaïlande, j'étais il y a 3 ans avec des amis.
C'est vous avec le tigre, voilà.
Oui, c'est moi, effectivement. Il est bébé, ça va, on dirait un chaton. Ça, c'était à Koh Samui, sur une île.
Là, sur cette île de Koh Samui, pas de problème avec la police?
Non, au contraire, c'est adorable.
Les policiers thaïlandais?
Oui, adorable. Voilà, moi, je suis une personne qui voyage beaucoup, soit aux États-Unis ou un peu partout. Quand je vois la différence entre la police française et pas un peu. Il y a 3 semaines, j'étais à Londres voir un ami à moi au foot, la police anglaise, c'est le jour et la nuit. Malheureusement, je pense que dans la culture française, il y a encore un peu de racisme. Donc, si on en a dans la culture française, on en a dans la police française, c'est logique. Et voilà, j'espère qu'avec le temps, ça va changer. On espère quand même, on garde l'espoir, même si c'est difficile.
Garder l'espoir, tous les témoins que nous avons rencontrés savent bien que dans un western, aussi moderne soit-il, les bons et les méchants n'existent pas. Seuls existent les hors-la-loi et ceux qui respectent la loi, jeunes comme policiers. Affaire Théo 22, v'là la cité, un grand reportage d'Abla Junaidi, Sylvie Coffi, Stéphane Lagarde, Alice Pozicki, Raphaël Rennes, Richard Rifono et Boris Bichit à la réalisation Lorenzo Dani.
Les steppes sont une sorte de multinationale, elle exporte le western et son modèle féodal, dicte le bien le mal, le public et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et West.
Autour de la question.